17h46, on va débattre politique et fin possible, potentiel du macronisme avec nos invités. Le face à Duhamel avec ce soir Franck Louvrier, le maire Les Républicains de La Baule, ancien conseiller Nicolas Sarkozy. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Alain Duhamel.
Bonsoir.
Pourquoi est-ce qu'on parle de fin potentielle du macronisme? C'est Madame Prima, la porte-parole du gouvernement, qui elle-même a créé cette zone de turbulence en évoquant cette fin probable, possible, virtuelle. On en parle et on l'écoute.
La question, c'est pas être opposant au macronisme. Le macronisme probablement trouvera une fin dans les mois qui viennent, avec la fin du quinquennat, du deuxième quinquennat du président Macron. La question est de savoir comment on rebâtit la suite.
Elle a raison, Alain Duhamel, pas vers la fin du macronisme.
Écoutez, il y a deux dimensions. La première, c'est Sophie Prima, elle se comporte comme une marxiste, pas marxiste au sens de Karl Marx, le fondateur du communisme.
Hein.
Oui, je sais bien.
Mais
au sens de Groucho Marx, c'est-à-dire le roi du burlesque. Parce que une porte-parole d'un gouvernement qui annonce la disparition de ce que représente le président de la République, qui l'a nommé personnellement à l'intérieur du gouvernement. Moi, j'imagine, parce que c'est des situations comparables, le porte-parole de Michel Rocard disant à l'antenne, dans quelques mois, le mitterrandisme sera mort.
Bah, elle a peut-être une vraie liberté de parole. Alors, bon. On ne devrait peut-être pas l'exercer en tant que porte-parole.
En tant que porte-parole, on n'a pas une liberté de parole. Alors, il y a l'autre chose, l'autre dimension qui est réelle, elle, et qui est, il y a un débat légitime sur que restera-t-il du macronisme. Est-ce qu'il aura disparu ou pas disparu? Et ça, c'est...
quoi le macronisme?
On va en discuter. Non, mais quand on dit tout aura disparu, il y a beaucoup de choses qui disparaîtront inévitablement. Mais est-ce qu'il y aura une trace dans certains domaines? Ben oui, en matière européenne, il aura laissé une trace. En matière de gestion des crises, je pense au Covid par exemple, il aura laissé une trace. Maintenant, quelle sera cette trace? Eh ben, ça dépendra des résultats des élections.
Votre collègue LR a raison de décréter la fin du macronisme dans quelques mois.
Bon, d'abord, c'est assez irrévérencieux à l'endroit du président de la République de faire un droit d'inventaire.
Vous condamnez ses
propos. De faire un droit d'inventaire
avant qu'il soit mort.
À quelques encore années de la fin du président de la République, parce que bien évidemment, il ne pourra pas se représenter. Ça, c'est la première chose. Après, elle dit peut-être tout haut ce que pensent même des macronistes. Tout ou bas, et notamment un des premiers d'entre eux, je crois, qui a assez critiqué le macronisme, qui est Gabriel Attal. Donc le fait est, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, ça devrait pas être un sujet de discussion, parce que je pense qu'il y a d'autres priorités pour les Français, mais la décision de dire ça, je pense non réfléchie, amène à, c'est vrai...
C'est au lendemain de la victoire de Bruno Retailleau, quand même.
Voilà,
amène donc est-ce que les LR se sentent pousser des ailes, tout d'un coup, ils se disent, on va prendre la place.
Il faudrait éviter de donner cette image, parce que c'est pas parce que vous avez gagné dans votre camp que vous avez gagné la majorité du pays. Et donc, le fait est, c'est qu'on devrait plutôt essayer de se rassembler plutôt que de commencer à créer d'autres chapelles qui sont inutiles. Je le dis toujours, il faut faire la cathédrale et surtout faire disparaître les chapelles.
Mais on a dit que le macronisme, c'était le « en même temps », c'est-à-dire « en même temps de gauche et en même temps de droite ». C'est ça qui peut disparaître et ça veut dire qu'il y aurait le retour du bon vieux clivage gauche-droite.
Bon, alors, d'abord, tout ça va dépendre du résultat des élections à venir. Parce que si c'est quelqu'un qui vient du bloc central, par exemple, qui était élu, mettons Édouard Philippe, on ne dirait pas c'est la fin du macronisme, même si je suis sûr qu'Édouard Philippe va s'en différencier pendant toute la campagne. Oui, mais il n'empêche, il sera pas le symbole de la disparition.
Non.
Bon, si en revanche c'était par exemple Bruno Retailleau je ne sais pas quoi, moi, Raphaël Glucksmann, à ce moment-là, on pourrait dire ben oui, une période est achevée et qu'est-ce qu'il en reste vraiment? Maintenant, en ce qui concerne Gabriel Attal, en réalité, vous le savez bien, c'était pas le macronisme qu'il critiquait, c'était Macron. C'est pas la même chose. En fait, Gabriel Attal, il en voulait terriblement, et ça se comprend tout à fait. Il en voulait terriblement à Emmanuel Macron de la dissolution il a perdu son job, il a perdu ses espoirs aussi. Il était dans une phase où il était populaire, il était jeune, il espérait quelque chose. Il espérait sans doute incarner un autre macronisme, sûrement. Bon, et puis voilà, il lui a coupé le jarret. Et donc, il s'en est pris à Emmanuel Macron, et ça se comprend très bien. Mais pas au macronisme.
On peut regarder quelques réactions, parce que vous imaginez que ça a déclenché un tollé, surtout quand on est porte-parole du gouvernement. Voilà ce que quelques-unes des réactions. Aurore Berger, la ministre, qui dit certainement pas, donc c'est pas la fin du macronisme, ni maintenant, ni dans quelques mois, ni dans deux ans. Et l'article 8 de la Constitution a par ailleurs permis au président de la République de nous nommer au gouvernement. Et Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le porte-parole d'un gouvernement de coalition, ne devrait pas dire ça. Elle pense ce qu'elle veut à titre personnel, mais elle vient de commettre une faute politique lourde. Alors, Renaud Muselier va la mettre dehors, elle ne peut pas rester dans sa fonction. Et puis du côté de chez Renaissance, ce genre de propos n'a pas lieu d'être, dit-on. Ça, espérons qu'à l'avenir, le respect entre nos forces politiques qui gouvernent ensemble le pays soit la ligne de conduite qui prévale pour tous.
Est-ce qu'elle doit démissionner, tiens?
Non, je suggère pas, mais en tout cas, c'est une réaction qui est inutile et qui ne fait que mettre en difficulté plutôt sa famille politique, parce que ça crée une forme d'audace inutile après une élection qui s'est bien passée, une forme d'arrogance qui déstabilise une majorité qui, on le sait très bien, n'est pas quand même très stable.
Et moi, je pense à autre chose qui n'est pas incompatible, mais qui est que les prochaines élections qui vont avoir lieu l'année prochaine, c'est les élections municipales. Et pour les élections municipales, il y a une chose qui sera impérative pour que la majorité actuelle, ce qu'on appelle la majorité, qui est une minorité, mais enfin, bon, disons pour la simplification des choses. Le premier problème sera de savoir si les républicains, les centristes et les macronistes seront capables de se mettre d'accord. Autrement, ils n'ont aucune chance de pouvoir gagner. Autrement dit, ils vont être alliés, peut-être pour certains d'entre eux, malgré eux, mais ils vont être obligés d'être alliés s'ils veulent garder ou, a fortiori, gagner des municipalités. Et de ce point de vue, c'est vraiment pas le moment de commencer à créer un incendie entre macronistes et leurs alliés.
Ça veut dire que la présidentielle a commencé et que Bruno Retailleau va se sentir pousser des ailes et qu'il y aura forcément un match entre la droite et les macronistes.
Ça veut d'abord dire qu'elle est irréfléchie, franchement.
Là où Duhamel a raison, c'est qu'il faut sauter une haie après l'autre. Et il y a une élection majeure qui sont les élections municipales.
Pour déclencher
une élection municipale, c'est pas une élection partisane.
Oui.
C'est une élection avec des équations locales. Rares sont les maires LR qui ont des listes que de LR. Ça n'arrive pas.
Il y a beaucoup de maires d'ailleurs qui n'ont pas d'étiquette.
Et il y a beaucoup de maires qui sont divers droite ou divers gauche, et d'autant plus aujourd'hui. Mais le fait est, c'est que c'est sûr que c'est quand même un exercice pour les formations politiques de commencer à s'entendre dans l'optique des présidentielles. C'est que si vous vous retrouvez avec des candidats Renaissance face à un candidat Horizon, face à un candidat LR et face à un candidat Modem, ça risque de commencer mal les présidentielles. Donc il va falloir commencer à s'organiser, et je pense que c'est important, et justement avec l'élection de Bruno Retailleau, qu'on ait les poids lourds politiques, c'est-à-dire les présidents de formation politique au sein du gouvernement, comme celle l'était il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Ça permet comme ça d'éviter ce genre de faute de quart.
Alors, derrière ça, il y a aussi le fait que LR descend de la tradition gaulliste, c'est-à-dire d'un parti qui était le parti du pouvoir sous la Ve République, et qui a toujours en travers de la gorge d'avoir vu en 2017 le jeune Emmanuel Macron être président de la République, alors que François Fillon, deux mois avant, était le grand favori. Bon, et ils ont eu le sentiment depuis le début, se comprend, d'être dépossédés de leur pouvoir naturel. Et ça reste en travers et ça continue à exister. Et dans les réactions, il y a de ça. Alors, moi, je pense que c'est son inconscient qui a parlé.
Et puis, attendez, parce que on a beaucoup évoqué Bruno Retailleau et les LR.
Oui.
Il y a une image aujourd'hui qui est celle justement de Bruno Retailleau, du ministre de l'Intérieur, qui a retrouvé l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, à Villiers-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, pour rendre hommage à la policière Aurélie Fouquet, qui avait succombé à une fusillade autour d'un braquage. C'était en 2010. Alors, est-ce que là, on serait tenté de dire c'est le sarkozisme qui est fini et c'est le retaillisme qui commence, Alain Duhamel ?
Ah, ça ressemble un petit peu à un symbole. Bon, mais d'abord, ça prouve que quelqu'un comme Nicolas Sarkozy, malgré tout ce qui s'est passé et qui le concerne depuis cette époque-là...
Il vient juste de lui enlever un bracelet électronique.
Il conserve néanmoins une forme d'autorité et d'ascendant sur toute une partie de la majorité et de l'électorat.
Bruno Retailleau, d'ailleurs, l'a appelé dimanche.
Ben justement, vous allez dans mon sens. Et là, l'explication qui est claire et dont je n'ai pas vu l'équivalent chez tous ceux qui sont au pouvoir depuis 10 ans, c'est le charisme propre de Nicolas Sarkozy. C'est quelqu'un qui avait un ascendant, un charisme qui continue, qui a laissé des traces, qui existe toujours. Mais ça entretient justement le sentiment chez les gens de LR, ce genre de choses, ce genre de personnages, ça entretient l'idée que c'est eux qui sont légitimes dans la majorité et que les autres doivent être des alliés, des seconds, des lieutenants. Et ça, ça ne plaît pas aux autres, évidemment.
Bon, d'abord, c'était des images très émouvantes. Et le discours de Nicolas Sarkozy était particulièrement émouvant pour la simple et bonne raison, c'est que c'est sans doute l'univers ou le contexte dans lequel il est le plus touchant. Quand il est face à des policiers ou des gendarmes, on le sait très bien, la relation qu'il a avec ce ministère de l'Intérieur, alors qu'il en a connu d'autres, est sans doute la relation la plus forte, et notamment avec tous ceux qui y travaillent. Le fait est, c'est que le hasard du calendrier, et je voudrais sortir bien sûr cet événement-là du contexte politique, mais c'est le cas, le hasard du calendrier, c'est fait que c'était le lendemain, ou sur le lendemain de l'élection de Bruno Retailleau. Et donc on le voit bien, il y a une forme de passage de relais, médiatique, en tout cas par l'image qui se fait, entre l'ancien président de la République qui a été le dernier qui a gagné... avec sa formation politique à droite.
Et le prochain.
Et puis peut-être celui qui, à un moment ou à un autre, va pouvoir avoir cette ambition-là. Donc voilà.
Vous connaissez bien Nicolas Sarkozy entre Laurent
Wauquiez. Et Bruno Retailleau aussi.
Oui, bien sûr, mais entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, il avait choisi qui, Nicolas Sarkozy?
Ah, il ne me l'avait pas dit. Et je pense qu'il est dans une période d'abstinence et ça tombait très bien,
oui,
médiatique.
Bien sûr, justement. Bien sûr, l'abstinence. J'imagine qu'il avait quand même un choix personnel.
Oui, il avait un choix personnel, mais c'est pas à moi de le donner.
De toute façon, Nicolas Sarkozy et Bruno Retailleau, ça n'est pas à l'origine la même famille politique.
Hein,
c'est extrêmement différent.
Retailleau n'a jamais été Sarkozy.
Retailleau n'était pas Sarkozy.
Ils ne se sont pas rencontrés pendant très longtemps parce qu'il y a eu des intermédiaires qui étaient François Fillon à une époque, qui a été même Philippe de Villiers avant. Et donc le fait qu'ils ne soient pas vus, ils se connaissent mal, a amené à peut-être parfois des incompréhensions. Aujourd'hui, c'est plus le cas.
Bah, pardon, mais je me souviens que Bruno Retailleau était sévère lorsque Nicolas Sarkozy s'était rapproché d'Emmanuel Macron.
Bien sûr.
En 2022, Bruno Retailleau disait « Je ne retiendrai pas Nicolas Sarkozy s'il souhaite quitter le parti » au moment où il avait appelé au rapprochement.
Mais ça, c'est depuis 2017. Il y a eu en permanence chez les Républicains ou chez ceux qui le sont devenus. Bruno Retailleau, il n'était pas républicain. Il l'est devenu. Mmh. À l'origine, il était villiériste. C'était autre chose. Il y a eu des différences entre ceux qui disaient « Bon, bah, maintenant, il y a Macron, il faut s'arranger. » Et Nicolas Sarkozy qui disait depuis le début « Il faut apprendre à gouverner ensemble. Il faut que le centre et la droite gouvernent ensemble. » D'ordinaire, ils gouvernaient ensemble quand ils avaient la majorité. Mais c'était les gaullistes qui tenaient le manche. Bah là, c'est Macron, bah, il faut gouverner avec lui. Et puis ceux, comme était Bruno Retailleau, qui disaient non, on est des adversaires, on doit rester des adversaires. Bien. Autrement dit, l'attitude et la politique de Bruno Retailleau n'était pas du tout la même que celle de Nicolas Sarkozy au début d'Emmanuel Macron. Ça,
oui,
c'est bien
mais
clair.
Du même coup, Bruno Retailleau a appliqué ensuite... la stratégie Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire d'accepter de rentrer au gouvernement.
Il a fait du sarkozisme sans le dire.
Et ça lui a permis d'avoir une vraie rencontre avec les Français, ce qui n'était pas le cas auparavant, parce qu'il était connu, bien sûr,
à droite, il faut être vraiment ministre de l'Intérieur maintenant pour espérer...
Pas ministre de l'Intérieur, déjà ministre, parce que c'est important, parce que ministre, ça change tout de suite de statut, vous êtes en relation avec tous les Français. Oui, lorsque vous êtes président du groupe, lorsque vous êtes président de parti...
Il aurait été ministre de l'Aménagement du Territoire, je pense qu'il n'aurait pas cette autorité.
Mais le fait est qu'on peut être ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire aussi, ça existe.
Alors, président de groupe, président et ministre de l'Intérieur, c'est pas du tout pareil, dans la mesure où le ministre de l'Intérieur, il est là tout le temps.
Bah oui.
Quel que soit le ministre de l'Intérieur, on le voit tous les jours. Et ce qui est beaucoup plus important, je crois, c'est que ce dont il parle, c'est ce qui intéresse le plus les gens, c'est-à-dire leur sécurité.
C'est l'une des raisons pour lesquelles Laurent Wauquiez voulait être ministre de l'Intérieur et pas ministre de l'Économie.
Président de groupe, c'est très bien d'être président de groupe. On le voit toujours, spécialement le président de groupe. Le mardi, au moment des questions d'actualité, encore, il ne parle pas tous les mardis, donc ça n'a rien à voir.
En tout cas, la stratégie d'être au pouvoir, elle paye. Parce que, bien sûr, les Français veulent que vous soyez en responsabilité. Ils ne veulent pas que vous soyez spectateur quand vous faites de la politique. Ils veulent que vous soyez acteur. Quel que soit le contexte, vous faites rarement vous associe rarement avec tous ceux que vous aimez. À un moment donné, il faut aussi faire des concessions. Et le fait que Bruno Retailleau ait fait des concessions...
Il faut des résultats aussi derrière.
Oui, bien sûr, mais le fait qu'il ait fait des concessions, qu'il soit engagé, je pense que ça a beaucoup joué dans l'élan populaire qu'il a créé.
Mais c'est la démonstration de ce que Nicolas Sarkozy avait raison en 2017 et Bruno Retailleau tort, c'est-à-dire que c'est en participant au gouvernement qu'on marque et pas en restant dans l'opposition,
à commenter.
Surtout quand il y a tellement de convergence idéologique.
Et c'est ce qui a fait sans doute aussi la différence de résultat entre Laurent Wauquiez, qui était sur une autre stratégie, et Bruno Retailleau pendant ces élections.
Merci Alain Duhamel, merci bien Franck Louvrier.